7h17. Un autre spécial Saint-Valentin, signé Pierre-Yves McSween.
Bien sûr.
Et là, écoute, quand j'ai vu ton plan passer ce matin, je me suis dit, aïe aïe, on est dans l'amour par-dessus la tête. Voici, chers auditeurs et auditrices, trois catégories de coûts sous-estimés lors d'une séparation.
Oui, parce que plusieurs personnes, sans le savoir, vivront cette semaine leur dernière Saint-Valentin. Ça se passera parfois même au restaurant. Il y a beaucoup de restaurateurs qui me disent, il y a les couples qui s'aiment trop, qui s'aiment juste correct, puis ceux qui s'aiment plus. Et ceux qui s'aiment plus, souvent, ça finit ce soir-là parce que tu te compares aux autres. Et là, je dis, il y a trois coups lorsque les gens prennent cette décision-là près de la Saint-Valentin qui sous-estiment. Le première catégorie de coûts, c'est la pension alimentaire des enfants. Le calcul de pension alimentaire des enfants est défiscalisé. C'est-à-dire qu'il se fait avec de l'argent net. Vous déduisez pas votre pension alimentaire, vous payez avec du net. En plus, on calcule votre pension alimentaire sur votre revenu brut. La logique est simple, on se dit, quand t'avais l'enfant chez vous, c'était pas déductible. Pourquoi quand il est chez l'autre, ce serait déductible? Ce qui est un peu logique. Par contre, tu perds l'économie d'échelle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pension alimentaire pour enfants ne fait que rétablir la différence de revenus en deux ex-amoureux. Donc, ça veut pas dire qu'une fois que vous avez payé la pension alimentaire, il n'y a plus rien à payer. Non, non, on va diviser certaines dépenses 50-50 encore après, mais la pension alimentaire, c'est pour rétablir l'écart de revenus. Par exemple, selon le calcul du gouvernement, règle générale, vous gagnez 60 000, votre ex-conjoint ou conjointe 35 000, vous allez payer à peu près 200$ par mois net d'impôt pour les enfants, si vous en avez deux. Deuxième catégorie de coûts, c'est les coûts liés à la vente de la résidence. Parce qu'évidemment, la majorité des couples qui se séparent ne peuvent pas supporter le fait de payer la maison tout seul. Et il y a beaucoup de choses que les gens ignorent avant d'arriver chez notaire. Première des choses, souvent on se dit, on va négocier un prêt fermé. 5 ans fixe, on va payer un taux d'intérêt moins cher. Ça, c'est vrai, tu sais, de pouvoir négocier comme ça pour avoir un taux moins cher. Mais la banque, ce qu'elle fait, elle, c'est quand vous négociez un taux 5 ans fixe, fermé, elle va se geler dans son coût de financement pour 5 ans, gelé aussi. Donc, si vous brisez le contrat parce que vous vendez la maison, la banque dit « Hey, t'as pas respecté le contrat, on va actualiser tout le gain d'argent que j'aurais fait sur la marge nette d'intérêt, puis je vais te la charger. » Donc, tu peux te retrouver chez le notaire, puis le notaire dit « Il y aura une pénalité de 12 000 $ qui ira à la banque parce que vous aviez un prêt hypothécaire fermé. » Si vous avez un prêt hypothécaire variable, fermé, vous payez encore moins cher, mais vous avez quand même 3 mois de pénalité d'intérêt. Ça, c'est le premier point de la vente de la résidence. Mais là, il y a un deuxième point. Mettons que vous avez une maison plus un chalet. Vous avez deux résidences. Il y en a une des deux que le gain en capital sera imposable, fois votre taux marginal d'impôt. Si vous n'en avez qu'une seule, mais que c'est un immeuble à revenu, par exemple, vous vous séparez, mais vous vivez dans le bas d'un quintuplex, ben la seule portion qui est non imposable, c'est la portion que vous viviez dedans. Tout le reste, le gain en capital est imposable. Donc, tu peux avoir de l'impôt à payer sans vendre la résidence au moment où tu n'as pas les moyens vraiment de payer tant que ça. L'autre point, c'est que, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui se disent, on va amortir le building pour payer moins d'impôts. Ou bien, on va pas capitaliser certaines dépenses, on va les passer à dépenses. Mais quand vient le temps de vendre l'immeuble à revenu, puis que tu vis dedans, puis tu te sépares, là, il peut y avoir récupération d'amortissement, donc une portion imposable à 100%. Puis il peut y avoir des dépenses que tu as déduites dans le passé, que tu te dis, crime, j'aurais dû les capitaliser parce que cette année, ça m'aurait fait du bien. Donc, puis il y a aussi les couples qui ont fait des travaux, évidemment, au noir, qui le regrettent royalement parce qu'ils se rendent compte que c'est là que ça aurait été payant.
Es-tu en train de me dire qu'il faut prévoir assez à l'avance une séparation sur le plan fiscal?
Mais il faut toujours prévoir ça, Paul. Quand tu vas au restaurant, il faut que tu te dises, est-ce que je fais un investissement ou une dépense? C'est toujours ça. D'ailleurs, la commission du courtier, si ton courtier, si ta maison te coûte 300 000, ton courtier veut pas, il y a une chicane entre les deux, là. La négociation pour vendre la maison puis l'entraide, c'est pas tout le temps, là. Fait que tu fais intervenir un courtier, mais à 300 000, tu viens de payer un autre 17 246 de commission nette. On va aller plus loin. Là, tu rachètes ton conjoint. Mettons que tu dis, OK, je peux l'acheter la maison. Tu rachètes le conjoint. Là, informe-toi comme il faut auprès de ta ville. Parce que ta ville, c'est ce qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut charger taxe de bienvenue quand tu rachètes ton conjoint si t'es pas dans le délai. Donc, appelez votre ville. Ça va. C'est quoi le délai quand je me sépare? Si j'étais marié, pas marié, on va vous dire des fois, c'est un an, par exemple, après la date de séparation ou après la date du divorce, il y a un délai. Donc, pensez-y, parce que payer 5 000 $ de taxe de bienvenue juste parce que tu as racheté ta propre maison, toujours un peu frustrant.
Ça, c'est sûr.
Faites-vous-en pas, il y a des frais quand même. Et le pire, Paul, c'est tu sais quoi? C'est que ta maison, une fois que tu l'as rachetée, elle va être réévaluée à la valeur marchande, donc tes taxes municipales vont monter. Avis après, c'est magnifique. Troisième catégorie de coûts insoupçonnés, Ça, c'est les dettes cachées. Et ça, j'ai beaucoup de courriels, Paul, là-dessus.
Les dettes cachées?
Eh oui, des gens qui se séparent, puis que il y a des dettes qui apparaissent, tu sais. « Ah ouais, je t'avais pas dit ça, j'avais contracté une marge de crédit de 5 000 à la Banque Royale. Ah ouais, je t'avais pas dit ça, j'avais une carte de crédit Costco. Ah ouais, je t'avais pas dit ça. » Ou l'autre te dit « Ouais, j'avais fait une avance à l'actionnaire dans ma compagnie, ça a payé notre train de vie. » Alors l'autre personne dit « Ouais, mais moi j'en ai rien à foutre de ton avance à l'actionnaire, c'est à toi. Et ça a payé notre train de vie. » Et là, t'as des chicanes sur « Les dettes appartiennent à qui? » Et là, t'arrives avec l'école privée, Paul. Là, t'es à l'école privée, tes deux enfants t'es à l'école privée, je t'en ai parlé cette semaine. Mm-hmm. Là, tu te sépares, là. Tes deux enfants à l'école privée, là, c'est plus le même coût, là. T'as payé moins de temps que ça de payer. Fait que là, il y a une chicane de savoir est-ce qu'on maintient, oui ou non, les enfants à l'école privée. Déjà que j'ai montré que ça coûte cher, imagine quand t'es tout seul à payer ou que t'as tout à payer, que tu perds ton économie d'échelle qui te permettait d'envoyer ton enfant à l'école. Et il y a un autre point intéressant que je trouve très drôle. C'est un restaurateur qui m'a parlé de ça cette semaine. Connais-tu la fameuse spéciale de la Saint-Valentin à 5 heures?
Non.
C'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs de bonne table qui ouvrent d'habitude à 18h, 18h30. Et là, Paul, off demande, flaire la bonne opportunité, beaucoup de restaurateurs se rendent compte qu'ils ont plus de demandes pour leur restaurant qu'ils sont capables de fournir. Donc, ils ouvrent une heure d'avance, tu comprends? Et l'offre économique, la gestion de l'offre, donc offre et demande, fait en sorte que il y a des tables qui se bookent à 5h. Donc, ce que je dis aux amoureux qui écoutent, si votre conjoint ou votre conjointe vous dit qu'ils ont réservé à 17h au restaurant, c'est probablement parce qu'ils étaient très dernière minute. Et ils ont probablement prévu une autre activité après pour compenser, genre on va aller au cinéma pour se faire excuser, mais 17h, c'est louche, c'est parce qu'on était à dernière minute et qu'on a profité de l'offre et de la demande des restaurateurs.
C'était notre façon à nous ce matin de parler d'amour.
C'était beau, hein?
Les sentiments, c'est ce qui est important.
Tant qu'il y a de l'amour au Paul, de la fiscalité, de la finance et de l'économie, j'aime ça.
Et je note ici ta phrase que tu as lancée au début de chronique, parce que dans chaque nouvelle Saint-Valentin, il y a une dernière Saint-Valentin.
Exactement.
Passe une belle journée.
Salut.
Il est 7h24.